Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pas question d'accorder un délai de 3 mois pour le Brexit, comme le demandait Theresa May. Les 27 ont proposé hier à la première ministre britannique un sursis de 2 semaines, mais après, ce sera la plongée dans l'inconnu.
Et puis, c'est un nouveau coup de tonnerre dans l'affaire Benalla. Le Sénat, à majorité de droite, a choisi hier de saisir la justice, non seulement du cas de l'ancien collaborateur de l'Élysée, mais aussi de ceux de 3 hauts responsables de la présidence, une décision vécue comme une déclaration de guerre par la majorité présidentielle.
Un coup de tonnerre diplomatique également dans ce journal. L'heure est venue pour les États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. C'est ce qu'a déclaré hier le président Donald Trump avant la venue à Washington du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avant la tenue aussi dans 3 semaines d'élections législatives en Israël.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, que sont les identity politics, politique des identités, une sorte de traduction. On essaiera de faire mieux en compagnie de Laurent Dubreuil, il est professeur de littérature à l'université de Cornell et il sera notre invité dans une dizaine de minutes.
La balle est désormais dans le camp des députés britanniques. S'ils votent la semaine prochaine le plan négocié entre Londres et Bruxelles, le Brexit sera reporté du 29 mars au 22 mai. C'est ce qu'ont expliqué hier les 27 lors d'un Conseil européen. Mais en cas de nouveau rejet du texte à Westminster, la première ministre britannique n'aura alors que jusqu'au 12 avril pour décider de la manière dont le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Les explications à Bruxelles de Bertrand Galichet.
Première option, le Parlement britannique adopte dans les jours qui viennent l'accord de Brexit longuement négocié entre Bruxelles et Theresa May. Dans ce cas, les 27 acceptent de différer la sortie du Royaume-Uni au 22 mai, veille des élections européennes. Deuxième hypothèse, si le vote des communes est négatif, la date butoir est ramenée au 12 avril, dernier délai pour que la Grande-Bretagne décide ou pas d'organiser le scrutin. Le choix laissé à Londres offre les meilleures garanties à l'Europe, explique Emmanuel Macron.
Nous avons donné des options et apporté une réponse à la première ministre Theresa May. Mais avec des limites et nos conditions.
En offrant une nouvelle chance au Royaume-Uni, Bruxelles préserve aussi ses propres intérêts et ne baisse pas la garde, assure Jean-Claude Juncker.
Quoi qu'il arrive, nous sommes prêts pour toutes les éventualités, y compris l'absence d'un accord sur le Brexit. Un no deal, car gouverner, c'est prévoir.
Avec ce délai, les 27 s'épargnent aussi l'organisation dans l'urgence d'un nouveau Conseil européen la semaine prochaine, après le vote aux communes.
Et Theresa May prévient aujourd'hui les députés britanniques qu'il est grand temps de choisir et de soutenir son plan sur le Brexit. Des tensions entre le Parlement et l'exécutif en France à présent. Déjà très fraîches les relations entre le gouvernement et le Sénat ont viré au froid polaire hier après la décision des sénateurs de transmettre à la justice le cas de 3 proches d'Emmanuel Macron entendus dans l'affaire Benalla. Fait rarissime, le Premier ministre Édouard Philippe a volontairement séché la séance de questions au gouvernement au Sénat hier. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lui décidé de ne plus participer à une conférence prévue aujourd'hui à Lille avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Des tensions décryptées par Rosalie Lafarge.
S'il voulait montrer qu'il existe, c'est réussi. Au fil des semaines, le Sénat prend dans cette affaire Benalla tentaculaire un poids de plus en plus important, un peu trop visiblement pour l'exécutif. Le gouvernement montre largement son exaspération et cela agace le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
C'est une surréaction et je pense qu'on a une constitution, on a des institutions et le Sénat n'a fait que jouer son rôle, sa mission constitutionnelle du contrôle du gouvernement, de l'exécutif. Et l'Assemblée nationale n'assume plus ce contrôle parce que les députés sont élus dans la foulée d'élections présidentielles. Et c'est le Sénat désormais qui assume cette mission de contre-pouvoir.
Même le président des sénateurs centristes, Hervé Marseille, pourtant hostile à la décision du Sénat, appelle à l'apaisement.
Il faut que ça cesse assez rapidement. La mise en cause de ses collaborateurs est évidemment un signal que n'apprécie pas la majorité, je peux le comprendre. Il faut dépasser ces bisbilles. On ne peut pas diriger un pays en se menaçant mutuellement.
Ni en méconnaissant le fonctionnement des institutions. Et c'est pourtant le sentiment que donne le gouvernement au politologue et constitutionnaliste Olivier Roucan.
Disons qu'il en a une interprétation qui, dans cette posture très offensive, n'accepte pas les regards un peu critiques et... On peut dire qu'il est là dans une approche très présidentialiste, dont on voit que par ailleurs, elle passe de moins en moins dans l'opinion.
L'opinion publique, en général peu favorable au Sénat, qui pourrait cette fois lui reconnaître ce rôle de contre-pouvoir et lui offrir alors une approbation précieuse en ces temps où l'on parle de réduire le nombre de parlementaires.
Le Sénat, le caillou dans la chaussure de l'exécutif, c'est le thème du billet politique de Stéphane Robert à 8h16. À la veille d'un 19e samedi de manifestation des Gilets jaunes, l'annonce du gouvernement d'impliquer les soldats de l'opération Sentinelle continue de faire des remous. Les militaires chargés jusqu'à présent de missions antiterroristes sont appelés à renforcer la sécurité de certains monuments publics, en garde statique notamment, dans le quartier de l'Élysée, pour permettre aux policiers et gendarmes de se concentrer, eux, sur le maintien et le rétablissement de l'ordre. Mais comment réagir si les émeutiers les attaquent? La question inquiète les militaires de l'opération Sentinelle. Témoignage rare à suivre dans le journal de 7h30.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Il rompt avec un demi-siècle de diplomatie américaine et va à l'encontre du droit international.
C'est dans un nouveau tweet que Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis allaient bientôt reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'État hébreu qui s'en est emparé en 1967 lors de la guerre des Six Jours a ensuite annexé ce plateau en 80, ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait jugé nul et non avenu. Donald Trump assume aujourd'hui un changement diplomatique à quelques jours d'une visite de Benjamin Netanyahou à Washington et à 3 semaines des élections législatives israéliennes. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Après 52 années, écrit Donald Trump sur Twitter, il est temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur ce plateau du Golan. Avec cette annonce, Trump chamboule complètement la donne et va à l'encontre du droit international. La résolution 242 des Nations Unies, adoptée en 1967 après la guerre des Six Jours, condamne l'occupation, puis quelques années plus tard, l'annexion de ce plateau montagneux de 1200 km² situé aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban. Après le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, Trump fait donc un nouveau cadeau à son ami Benjamin Netanyahou, qui est attendu lundi à Washington, et ce à moins de 3 semaines de législatives cruciales dans son pays. Trump jure que cette annonce n'a rien à voir avec le calendrier électoral israélien.
Mais l'imminence des législatives en Israël fait bien les affaires de Benjamin Netanyahou. Le décryptage à Jérusalem d'Étienne Monin.
Et c'est un formidable cadeau électoral pour le Premier ministre israélien qui tombe 3 semaines avant les élections législatives, alors que Benjamin Netanyahou est au coude à coude avec l'opposition, menacé par les affaires. Il a déjà remercié Donald Trump qu'il va rencontrer lundi à Washington, sans doute pour la deuxième couche, l'officialisation de cette position unilatérale américaine. Le plateau du Golan, c'est un territoire syrien conquis en 1967 par les Israéliens, puis annexé pour la communauté internationale. Il est considéré comme un territoire occupé. Il est aujourd'hui habité par de nombreux Israéliens qui ont bâti des communautés et développé le tourisme, mais aussi par des Druzes qui ont des liens très forts avec les Syriens qui vivent de l'autre côté de la grille de séparation. Israël et la Syrie sont toujours en état de guerre. Depuis 2 ans, le secteur est tendu. Israël a régulièrement bombardé des positions iraniennes en Syrie. Elle accuse les chiites de tenter de passer des armes au Hezbollah et de vouloir prendre pied sur le territoire syrien. Pour l'Amérique, c'est un nouveau virage diplomatique. Il arrive au moment où les choses se cristallisent en Syrie avec les avancées militaires du régime et un possible retrait progressif américain.
Moins de 3 mois après la fin de son mandat au Brésil, l'ancien président Michel Temer tombe à son tour dans les filets de Lavage Express, cette vaste enquête anticorruption qui vaut déjà de la prison à un autre ancien chef d'État, Lula. La justice soupçonne Michel Temer d'avoir détourné l'équivalent de 417 millions d'euros, d'avoir touché des pots de vin notamment pour des contrats de génie civil dans une centrale nucléaire. À l'annonce de son arrestation, la devise brésilienne, le real, a perdu près d'1% en bourse. Un mois après le début de la contestation, les Algériens comptent bien manifester en masse de nouveau aujourd'hui pour réclamer encore et toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en Algérie depuis 20 ans. Retour en France avec la démission hier du maire du Havre, Luc Lemonnier. Le successeur d'Édouard Philippe à la mairie savait depuis hier après-midi qu'une enquête commune de France Bleu Normandie et de la cellule Investigation de Radio France allait publier les témoignages de plusieurs femmes qui l'accusent de leur avoir envoyé des photos de lui, des selfies pornographiques. Témoignages ce matin de ces femmes et révélations aussi sur le climat étrange qui règne au Havre où de nombreux élus semblaient être au courant du comportement du maire qui semble durer depuis plusieurs années, Sylvain Tronchet.
Ces 4 femmes nous ont raconté sensiblement la même histoire. Toutes connaissaient Luc Lemonnier pour des raisons personnelles ou politiques et toutes, un jour, ont eu la surprise de recevoir des photos pornographiques du maire du Havre sans les avoir sollicitées. Comme nous l'a raconté Élise, dont nous avons modifié le prénom et la voix.
J'ai pas compris en fait au début. Pourquoi je recevais ça? et il me disait que c'était pour me montrer son ouverture d'esprit et qu'il était ouvert pour toute proposition, quoi. Je me suis senti sali, souillé, n'ayant rien demandé du tout. Alors peut-être que c'est très naïf, mais pour moi, un homme politique doit avoir une certaine ligne de conduite. Moi, ça m'a vraiment dégoûté.
Deux de ces femmes, au moins, ont tenté d'alerter des élus de l'hôtel de ville. En 2014, puis récemment, il y a quelques mois, toutes les deux se sont retrouvées finalement convoquées chez le procureur pour avoir divulgué des photos personnelles. Pourtant, les agissements de Luc Lemonnier étaient un secret de polichinelle. De nombreux élus en Normandie nous ont confirmé avoir eu connaissance, à des degrés divers, du comportement du maire du Havre. Dans ce contexte, Édouard Philippe pouvait-il l'ignorer ? Le Premier ministre s'est en tout cas rendu au Havre discrètement hier matin. Il a rencontré Luc Lemonnier. Quelques heures plus tard, le maire démissionnait.
720 tonnes d'acide chlorhydrique et 82 tonnes d'acide sulfurique, 16 tonnes de white spirit notamment. Le navire italien Grande America contenait plus de 1000 tonnes de matières considérées comme dangereuses avant de couler. C'est le triste inventaire dressé hier par la préfecture maritime de Loire-Atlantique. Un paysage apocalyptique avec des bâtiments carbonisés. Au moins 47 personnes sont mortes dans l'explosion d'une usine chimique dans l'est de la Chine. 90 blessés graves selon un bilan encore provisoire. Et face à la Chine qui souhaite exporter plus facilement vers l'Occident via de nouvelles routes de la soie, de l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe, sur les routes, sur les rails, sur les mers, la France appelle à une réponse commune de l'Union européenne alors que le président chinois Xi Jinping était en Italie hier pour que Rome signe un accord cadre pour participer à ces nouvelles routes de la soie. Pour l'experte Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut de l'Or, la Chine cherche en fait à profiter des aides publiques.
La préoccupation qu'il y a derrière ces investissements chinois, c'est qu'ils sont le plus souvent menés par des entreprises publiques chinoises. Alors d'une part, ce sont des entreprises qui bénéficient donc de systèmes de subventions qui sont très opaques, qui créent une distorsion de concurrence évidente avec les entreprises européennes qui voudraient elles-mêmes pouvoir investir ou contrer ces investissements. Et par ailleurs, derrière ce contrôle du gouvernement chinois, on peut être amené à s'interroger sur les intérêts stratégiques de long terme. Pour revenir sur la question des investissements chinois dans les infrastructures de transport et notamment dans les ports européens, quand on voit qu'aujourd'hui ces investissements concernent 5 des 10 ports les plus importants qui sont stratégiques pour tout le commerce de l'Union européenne avec le reste du monde, ces investissements qui sont devenus très systématiques ces dernières années, qui se sont fortement accélérés depuis quelques années et qui concernent aujourd'hui 14 ports en tout dans l'Union européenne, appellent à nous interroger sur l'impact que ça peut avoir pour le commerce européen, pour le contrôle des douanes qui sont effectuées sur les importations, le respect des normes européennes et éventuellement même des enjeux sécuritaires de plus long terme.
Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut de l'Or, elle répondait à Marie Viennot. Le temps de ce vendredi 22 mars, gris ce matin, ensoleillé cet après-midi. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 19 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 17 à 23 au sud, Guillaume Hermier.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Il est 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, que sont les Identity Politics ?